Eh bien, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Et alors, comme chaque vendredi, vous êtes extrêmement réjouis de nous écouter, et on va commencer par le local. Et on a de la chance cette semaine parce qu'on a deux reportages. Un premier reportage sur la potentielle fermeture des bains publics dans le premier et la mobilisation qui s'ensuit. Ensuite, on va parler de l'expulsion des trois bidonvilles qui ont eu lieu cette semaine. Ensuite, on va aborder la question de la mobilisation lyonnaise pour la ZAD, parce qu'il y a des risques d'expulsion en ce moment, notamment des paysans. Et après, du coup, ces deux reportages et cette explication, on va passer au national. Et alors là, ça va être thématique vélo, et notamment à Le Forêt, dans l'Ain. La Poste a vendu une partie de ses bâtiments, ce qui oblige une partie des postiers à se changer dans un garage loué à un particulier. Et puis après, on va revenir sur l'indemnité kilométrique à vélo, qui est plutôt un coup de pub et pas vraiment une vraie avancée pour les personnes utilisant le vélo. Et enfin, après avoir fait ce petit tour du national, on va arriver à l'international et on va aborder deux questions obscures, mais on va vous éclairer sur d'abord le Yémen, dont on a peu entendu parler ces derniers temps, et enfin notre thématique favorite, c'est-à-dire le gaz de schiste. Et on finira par le traditionnel agenda. Et tout de suite, du coup, on va commencer par un reportage sur les bains publics.
Alors, mercredi, c'était les vœux de la mairie du 1er arrondissement et ça a été l'occasion pour les militants qui soutiennent les bains publics des Pentes de gueuler un petit peu parce que ces bains sont menacés de fermeture. On a fait un petit reportage et on en reparle dans 8 minutes à peu près. Reportage tout de suite.
Zest, le nouveau savon Tonus.
Camille.
Info.
Zest vous réveille avec son parfum frais et tonique et plein de mousse pétillante. Il vous rafraîchit, même les idées. Avec Zest, vous vous sentez plus que propre, vous retrouvez votre Tonus.
Mercredi 13 janvier 2016, 18h30, devant les bains douches situés sur les pentes de la Croix-Rousse.
C'est ici que la maire du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert, a choisi de souhaiter ses vœux aux habitants du quartier.
Au micro, défilent plusieurs acteurs de la vie politique et culturelle locale.
Dans le public, des dizaines de personnes sont venues s'opposer à la fermeture des bains douches gratuits. Cette fermeture est prévue par la ville de Lyon en mars 2016.
Le premier adjoint de Gérard Collomb, Georges Képénékian, est venu ce soir s'excuser de l'absence du maire et souhaiter ses vœux.
Il est copieusement pris à partie par les habitants du quartier qui n'entendent pas excuser l'absence de GG Collomb, ni accepter la fermeture des bains douches.
Chaque jour pour la ville comme pour la métropole lyonnaise, ce sont ces idéaux que nous réalisons quand nous développons l'activité.
Et que nous voulons fermer les bains douches.
Sine qua non,
ça, c'est les idéaux
individuels et collectifs.
Je propose une
quand nous rééquilibrons le territoire en ramenant partout de la mixité sociale.
Oui, en fermant les bains douches. Bravo.
Bravo, la mixité.
Bravo. C'est pas de la solidarité, ça.
Quand on ferme les bains douches. C'est le bain douche que vous défendez à cet instant.
Tu n'as jamais eu des problèmes de douche, toi. Je sais de quoi on parle.
Je comprends très bien quel est le cadre du discours de Madame le maire tout à l'heure sur cette idée de participation et de démocratie. Laisser ouvert des lieux vétustes avec une fréquentation minimale n'est pas une solution. Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous voyez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile. Et je voudrais qu'on ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici d'envisager la fermeture de ces bains douches.
Un bain douche, ça va.
Je peux terminer. Vous avez autant de paroles, chère madame. Je voudrais rajouter que nous travaillons plus près des habitants avec le souhait. rêve une collaboration sereine.
Alors on est à l'angle de la rue Ornano et de l'impasse Flessel. Et on est dans le premier arrondissement le 13 janvier.
Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Donc c'était les vœux du maire, de la maire du premier. Et en principe il y avait Gérard Collomb. Donc on a nous collectif habitants pour le développement des bains-douches. On a décidé d'intervenir. Donc avec une prise de parole et puis quelques remarques un peu acides. Voilà. Les bains-douches existent depuis un bon moment, je crois que c'est 36. Ils sont gratuits depuis 2010. On est venu faire des interviews des usagers et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens de 20 à 80 ans, des gens qui viennent pour se doucher parce qu'ils n'ont pas de sanitaire à la maison, mais aussi des gens qui viennent rencontrer leurs amis, des gens de passage. Il y a des gens qui sont au travail en déplacement, il y a donc pas mal de situations. Voilà. Sur la fréquentation, Képénékian vient de dire qu'il y avait une fréquentation minime. En fait, on a regardé un peu sérieusement et on est autour de 50 personnes par jour. Il faut savoir que les bains-douches ne sont pas ouverts tous les jours. Ils sont fermés le mardi après-midi, par exemple, et ils sont ouverts dans des horaires qui ne permettent pas de venir se doucher le soir, par exemple, ce qui limite la fréquentation. Je suis allé moi-même prendre une douche. C'est des lieux qui sont anciens, mais qui sont tout à fait agréables, avec un accueil très charmant des agents municipaux. Voilà.
D'accord. Et donc, c'est des gens qui viennent fréquemment pour se doucher. C'est des gens qui vivent plutôt dans le quartier, qui sont plutôt...
Alors, les gens avec qui on a pu parler sont plutôt, effectivement, du quartier, sur le plateau. Beaucoup des gens qui n'ont pas de douche à la maison. Hein. Voilà.
En quoi aujourd'hui, ce soir et à l'avenir, ils sont menacés ces bains-douches?
Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est que il y a une prévision de fermeture en mars prochain, donc c'est très très proche. Il faut savoir que c'est pas la mairie du premier qui gère les bains-douches, mais le CAS, le CCAS. Et que c'est évidemment la mairie centrale qui pilote.
C'est quoi CCAS ?
Le CCAS, c'est la caisse communale d'action sociale.
Et alors, ils veulent fermer les bains-douches sous quel prétexte ?
Alors, les arguments, il y a trois arguments. Il y a le premier, c'est l'accessibilité. Il n'y a pas d'ascenseur, il faut monter plusieurs étages. Mais il y a une accessibilité par ascenseur dans la salle des ovalistes qui est juste à côté. Et puis, le deuxième, c'est la vétusté. Alors effectivement, ces bains, ils datent de 36, ils mériteraient d'être rénovés, mais ils sont tout à fait accessibles actuellement. Encore une fois, je suis allé moi-même me doucher récemment et voilà, ça fonctionne. Alors il y a 9 douches. On reproche aussi un peu à la mairie de laisser petit à petit les lieux en déshérence, puisqu'actuellement il y a 23 douches dans les bains douches, mais il y a seulement 9 douches qui sont utilisées avec de l'eau chaude. Voilà. Ce qu'on sait aussi sur le public, c'est qu'il y a des gens seuls, il y a des familles, il y a très peu de femmes, parce qu'on pense que c'est, on ne sait pas bien pourquoi, mais on pense que c'est pour des raisons d'intimité. Donc là aussi, il y aurait un aménagement à faire. Voilà. Il faut parler un petit peu aussi du fait que l'îlot Flessel, ce qu'on appelle l'îlot Flessel, c'est à la fois les bains-douches, le lavoir public, qui est maintenant une salle de théâtre et de concert, et puis la salle des ovalistes, qui est une salle municipale. Et c'est une salle qui est louée très, très peu cher aux familles pour faire des fêtes et qui est très utilisée. La crainte qu'on a, c'est qu'on ferme les bains-douches, puis petit à petit, on récupère le bâtiment et on le vend. Donc voilà.
D'accord. Et ils proposent quoi à la place?
Alors actuellement, il ne reste plus que 2 bains-douches à Lyon. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, il y en a un par arrondissement. Donc une fois que celui-ci sera fermé, Képénékian vient de le dire, ils sont en train d'aménager des bains-douches à Gerland. Mais aucune des personnes, des usagers qu'on a, avec lesquels on a discuté, se disent qu'ils vont aller à Gerland se doucher. Voilà. Nous, ça nous paraît fou que sur une ville comme Lyon, il n'y ait plus d'endroit pour se tenir propre, tout simplement. Hein. C'est vraiment une histoire de correction, de dignité, en fait.
Très bien, merci. Des trucs à ajouter ? Aussi, une chose, c'est que les gens qui sont intéressés par rejoindre le collectif, la prochaine réunion se fera salle Kuruma, c'est au Jardin des Chartreux, et c'est le 28 janvier à 19h30.
RCF, c'est une abréviation de Radio Canu.
Non, c'est Radio Catholique de France. Non, c'est pas la même.
Les mains douches, si vous vendez les mains douches, nous verrons rouge.
Les routards, les étudiants, les routards, les étudiants, eux aussi ont droit de citer, eux aussi ont droit de citer, les étrangers, les étrangers,
font partie de notre identité.
Badouche, si vous vendez les badouches, nous verrons rouge, nous verrons tout rouge.
On ne vous laissera pas faire,
on ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire,
monsieur le maire,
monsieur le maire,
monsieur le maire, on se battra, on se battra,
on se battra.
Eh bien, merci aux collègues qui ont fait ce reportage pour... Voilà, montrer encore une fois que les personnes les plus exclues ont encore de moins en moins de droits pour les droits les plus élémentaires. Et c'est un reportage que nous pourrons retrouver prochainement sur le site internet nébuleuse.info qui rassemble les initiatives et les alternatives et les luttes dans le social et la santé. Voilà. Et donc, sans transition, on va parler encore dans le local des expulsions qui ont eu lieu mardi matin. Puisque mardi matin, il y a 3 bidonvilles de la métropole de Lyon qui ont été évacués suite à la décision du préfet. Voilà, on se demandait Michel Delpech ce qu'il allait faire. Et ben voilà, on ne change rien surtout. Voilà. Mais donc, voilà. Ils ont évacué les campements de Rome qui étaient du coup à Vaux-en-Velin, à Saint-Priest et à Villeurbanne. Voilà, l'innovation, c'est que c'était les 3 en même temps. Et du coup, ce qui changeait, c'est que les policiers en nombre étaient accompagnés d'agents de la direction et de la cohésion sociale, donc la DDCS, qui est chargée de proposer des hébergements d'urgence. Et normalement, là, ils devaient proposer des hébergements d'urgence à toutes les gens qui vivaient dans les baraques. Voilà, la DDCS, c'est l'ancienne DAS. Et le préfet du Rhône ne voulait pas rater cette opération et son aspect humain, entre guillemets. C'est lui qui a dit ça. Voilà. Donc, ça dépend ce qu'on appelle humain, parce qu'apparemment, juste après l'expulsion, ils ont rasé toutes les baraques, ils ont empêché les gens de prendre leurs affaires. Donc, voilà, ils devaient trouver ça super humain. Apparemment, le côté humain, entre guillemets, c'est parce qu'il y a quelques familles qui ont été sélectionnées sur le volet pour faire partie d'un programme qui s'appelle I2E. Voilà, c'est assez opaque. On ne sait pas exactement les conditions pour pouvoir rentrer dans ce programme-là, mais c'est pour les familles avec enfants, grosso modo. C'est des hébergements en bungalow. Et c'est grosso modo pour les familles les plus intégrables, toujours entre guillemets, puisque pour être sélectionné, il fallait ne pas être connu défavorablement des services de police et s'engager à ne plus mendier, entre autres. Après, je ne connais pas toutes les autres conditions. Voilà, donc notre cher préfet a dit « Sur ces 3 sites, nous avons recensé environ 400 personnes qui vivaient dans des conditions de salubrité déplorables. J'ai voulu mettre fin à ces situations indignes de la République. On l'a fait en marchant sur 2 pieds, humanité et fermeté. » Un petit peu d'humanité et beaucoup de fermeté. C'est super. Bah après, c'est un peu dans la continuité de ce qu'avait eu avec Karenko aussi, qui avait fait un programme en Datou. C'était un peu la même idée où il y a une petite proportion de personnes qui sont sélectionnées sur le volet pour être intégrées dans un programme de réinsertion et les 98% des gens qui doivent se barrer en Roumanie, quoi. Voilà. Du coup, pour les familles qui ont eu la chance d'être sélectionnées dans ce programme I2E, malgré l'opposition des habitants de l'Ouest lyonnais qui n'étaient pas très chauds, donc il y a eu un premier village de bungalow qui a accueilli 16 familles à Saint-Genis-les-Aulières à la veille de Noël. Et début décembre, 7 familles qui se sont installées dans des bungalows sur un autre site à Saint-Priest. Voilà, donc du coup, il y a eu une évaluation sociale, il y a eu 145 personnes qui ont été retenues pour vivre sur les sites Et du coup, voilà, il y a 110 personnes qui sont installées, qui sont issues des trois bidonvilles. Et il y a à peu près 6 familles dont l'hébergement a été pris en charge par les mairies de Vaux-en-Velin et de Villeurbanne, car selon la préfecture, leur insertion était avancée. Voilà. Pour les autres, c'est plus le volet fermeté qui tombe. Du coup, le préfet a d'abord demandé, comme à l'habitude, à la police de distribuer les obligations de quitter le territoire français. Ce qui est complètement débile, hein, sachant que c'était a priori des Roms qui venaient de Roumanie. Donc grosso modo, ils vont faire l'aller-retour. Enfin, en fait, c'est complètement débile, vu qu'ils ont le droit, dans tous les cas, de revenir en France. Bref, c'est pour les fatiguer, quoi. Pour fatiguer tout le monde, épuiser tout le monde. Voilà, donc depuis le mois de septembre, il y a 110 OQTF qui ont été notifiés, dont 25 ce mardi-là, jour des trois évacuations. Donc là, il y a 4 personnes qui ont été arrêtées et reconduites au centre de rétention de l'aéroport de Saint-Exupéry. Et du coup, voilà, le mot donc, qui a été dit par le préfet du Rhône, c'est que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie. Voilà, donc le motif des obligations de quitter le territoire, c'est l'absence de ressources. Parce que normalement, quand on est en France, on doit pouvoir subvenir à ses besoins. Mais bon, là, j'ai l'impression que c'est surtout que les gens ils se démerdent comme ils peuvent et puis hop... On rase leur campement, après ils repartent, après ils reviennent. Voilà, c'est super. Donc voilà, donc il y a eu donc 4 personnes placées en rétention. Et après, il y a d'autres personnes qui ont reçu une proposition d'hébergement. Certaines, en même temps qu'elles recevaient leur obligation de quitter le territoire. Bon, c'est pas très compréhensible. Donc il y en a qui vont être hébergés dans des hôtels ou dans une ancienne caserne de pompiers qui est ouverte pour le plan froid, mais on ne sait pas du tout pour combien de temps et on ne sait pas non plus les critères. Parce que là, dans l'article de rue 89, c'était marqué qu'a priori, il y avait une proposition pour chaque famille, mais moi, dans la même journée mardi, j'ai rencontré une famille qui avait été expulsée de ce camp, qui n'avait eu aucune proposition d'hébergement et qui avait un gamin de 2 ans. Donc, on ne sait pas du tout comment le tri est fait pour ces familles-là, sachant que là, ça a été des places proposées en plan froid, sachant que les places en plan froid, c'est déjà complètement saturé, puisqu'il y a déjà 1500 personnes au moins sans solution d'hébergement qui appellent le 115. Donc voilà, tout est un peu flou, on ne sait pas les personnes qui ont été hébergées, combien de temps elles vont rester. Et voilà, ces familles hébergées à partir de mardi soir vont devoir de toute façon rentrer de gré ou de force en Roumanie. Et le préfet envisage même un transport collectif. Alors je ne sais pas s'il va faire un grand car ou... on y va. Bon, voilà.
Alors on change d'actualité un petit peu. On va vous parler de la menace d'expulsion sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et des manifestations ont eu lieu à Lyon samedi dernier, mercredi devant le tribunal de grande instance. On vous lance un petit reportage et on vous parle ensuite des manifestations qui doivent avoir lieu demain en région lyonnaise. Voilà.
Nous sommes le 9 janvier 2016 devant la salle des Rancy à la Guillotière et aujourd'hui les collectifs et les individus qui soutiennent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se sont donné rendez-vous comme dans beaucoup d'autres villes de France. La manifestation s'est d'abord tenue place Carnot, elle a rassemblé des centaines de personnes au milieu des Lyonnais et Lyonnaises, pas de nombreux dans les rues ce premier samedi de solde. Un gros dispositif policier, d'abord un peu débordé, ensuite filtré le passage des manifestants aux abords de la place Bellecour. À 16h, comme prévu, les manifestants et militants se sont retrouvés dans la salle des Rancy pour construire ensemble les actions de soutien à mener à Lyon, puisque en ce début de janvier 2016, la ZAD est à nouveau menacée d'expulsion. On écoute donc ce qui s'y est dit en début de réunion avant que ne se lance une discussion sur les actions à mener à Lyon, notamment pour le mercredi 13, jour du procès qui vise à condamner à de lourdes amendes les paysans historiques de la ZAD afin de mieux les expulser. Et puis on y a également à la salle des Rancy parlé des actions à mener pour la journée du 16 janvier. Voilà, on écoute ce qui s'y est dit, en tout cas en début de réunion.
Bon voilà, nous on est quelques personnes, bon, peut-être une quinzaine à aller régulièrement à la ZAD. Ici on a rencontré le comité ZAD local qui est dans la pièce et puis plein d'autres orgas qui sont là, du coup bon voilà, c'est cool. Du coup, bah, comme vous le savez, le 13, mercredi prochain, il y a un procès des habitants historiques de la ZAD et des paysans qui va avoir lieu à Nantes. Où c'est sûr, à peu près certain, que c'est leur expulsabilité qui va être prononcée, assortie d'amendes journalières s'ils ne quittent pas la ZAD, de saisie de leur cheptel, de saisie de leurs biens immobiliers. Voilà, c'est en gros une espèce de petite attaque d'une petite partie du mouvement bien individualisée pour foutre la pression à quelques habitants et les acculer à partir. Ce qui fragiliserait pas mal la ZAD si ces gens venaient à partir, et ce qui fragiliserait le mouvement, quoi. Là, d'ores et déjà, le mouvement, il a commencé à ramasser un peu d'argent pour payer au cas échéant les amendes, pour se laisser un peu de temps, au moins un mois, et leur laisser un peu le temps de respirer. Et le temps à nous, quoi, de s'organiser là, dans le mois qui vient pour faire lâcher le gouvernement. Voilà, aussi ce qu'on peut dire, c'est que c'est clair que c'est une manœuvre pour préparer une évacuation, enfin c'est ça qu'on sent, quoi. Un peu là ce que disent les zadistes, et puis c'est comme ça qu'ils ont commencé aujourd'hui, c'est que il faut mettre la barre haute, parce que c'est un peu là, c'est plus seulement une réponse à un nouveau truc, une nouvelle attaque du gouvernement, c'est on peut plus être sur la défensive, faut attaquer, faut faire lâcher le gouvernement dès maintenant, quoi. On peut plus, enfin ce qu'il dit, on peut plus attendre, être dans le flou, écouter un Valls qui dit on va évacuer, une Ségolène Royal qui dit non, faut garder, puis Hollande qui dit rien, enfin bon voilà, là en gros la séquence qui s'ouvre, c'est il faut pousser à l'abandon du projet maintenant, quoi. On peut plus tergiverser. Et au cas échéant, si le gouvernement décide de quand même évacuer la zone, et ben faut se préparer matériellement à aller les soutenir là-bas. Enfin, c'est ce qu'on propose aussi au comité ici.
Par rapport à l'objectif qui a été donné, la note a été donnée par le mouvement depuis Notre-Dame-des-Landes, à savoir d'arracher une situation victorieuse qui est quand même relativement inédite. On se dit que ce soit au niveau national ou au niveau local, il faudrait qu'on arrive à avoir une intuition assez aiguë de la stratégie de l'État. Et de la même manière, il faudrait qu'on arrive ici, de la même manière qu'il faudra l'avoir nationalement, une stratégie aiguë de nos forces. Une intuition aiguë de nos forces. Avec toutes les composantes du mouvement qu'on connaît, alors ici on va apprendre un petit peu à se connaître, ce qu'on pourrait considérer comme des gestes adaptés, à savoir sentir ce qui est nécessaire d'être fait, et au contraire ce qui parfois n'apporte rien dans le sens de l'objectif principal. Qu'on ait des précarés idéologiques au départ, qui arrivent à se décloisonner, pas simplement dans le sens de s'accorder avec son voisin proche pour décider de ce qu'il y a à faire dans un intérêt commun, un intérêt qu'on partage, mais aussi tout simplement pour arriver à dévier de sa trajectoire au contact de l'autre. Et voilà, sans vouloir trop prendre de place là-dessus, nous c'est à peu près ce genre de transformation qu'on a l'impression de ressentir quand on passe du temps là-bas à la ZAD, et a fortiori ça l'est d'autant plus quand on décide de s'y installer. On finit par s'attacher à, en fait là-bas, ce sentiment de s'attacher à un espace, pas simplement parce que comme on le fait là-bas, on reprend prise sur toute une série de gestes élémentaires du quotidien, enfin bon, tout le monde voit très bien de quel type de choses on peut parler, mais aussi simplement parce qu'on se retrouve à avoir un destin lié avec tous ceux qui vivent sur place et qui partagent cette condition de lutte. Que finalement tout le monde est dans ce combat, et que ce combat, dans ce qui va nous inviter à vivre, par exemple la journée d'aujourd'hui, particulièrement, enfin, ce qui est le cas à Nantes avec le blocage du périph, va nous pousser à la rencontre de l'autre, et nous transformer et au final transformer ce quotidien. Et donc c'est à peu près dans cet esprit que nous on voudrait modestement proposer de s'organiser sur Lyon. Donc la ZAD, la stratégie qu'elle nous invite à suivre à peu près depuis cet été et l'annonce de la reprise des hostilités, c'est de réactiver des comités locaux d'organisation qui eux aussi viendraient rassembler d'une certaine façon les différentes composantes, à savoir les différentes forces énergie politiques qu'on arrive à trouver dans chaque ville.
C'est pas possible. Et ils appellent un peu de la même manière à ce que partout en France, au moment des expulsions, il y a des blocages de lieux de pouvoir, de points stratégiques et de flux dans les grandes villes. Un des trucs qui savent déjà qui va être fait, c'est que les comités bretons, ils promettent de bloquer toute la région de Nantes en cas d'expulsion de la ZAD. Bon voilà, il faut juste que ça se passe partout pareil en France. Et du coup, une des propositions et une des choses qu'il faut qu'on discute ici aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est de savoir s'il y a expulsion, comment à Lyon et dans la région de Lyon, on peut être inventif et ambitieux et répondre aux mots d'ordre qui émanent de la ZAD.
Pour le 16, il y a peut-être quelque chose à présenter. Là, il y avait un fly qui tournait.
Ouais, pour le 16, pour l'instant, ce qui avait été discuté, c'était l'idée de qu'il y ait quelque chose qui se passe à Lyon en après-midi. Donc ça, c'est encore à défricher. On a évoqué des pistes lundi dans une réunion, mais on n'était pas du tout aussi nombreux que ça. Donc je pense que ça vaut le coup de les reprendre depuis la base. Et il y a un appel qui a circulé, dont je peux assez peu parler parce que je ne suis pas à l'origine. C'est une tracto vélo qui partirait de l'ouest lyonnais avec départ à 9h et arrivée prévue à 14h au métro à Oulin.
Dont nos droits fondamentaux sont en danger quand ils ne voient ici qu'un bout de terre et du profit à engranger. Appel aux consciences quand la vie est menacée, qu'ils s'approprient une terre pour qu'ils puissent rentabiliser. Appel aux militants pour qu'on rappelle aux politiques l'époque du Far West, c'est fini et qu'on boite pas la vie comme une leur diligence. La vie aux dirigeants, on bouge pas, on la défend, on les couchera là où leurs avions devaient descendre. On veut pas de ici, pas du béton vinci ni de la puanteur de leurs insignes. Désolé, j'insiste, la terre et notre maison ont cramé leur raison. Propose la merde comme horizon, dans d'oppression pour bétonner un site arrêté. Déjà trop de mal de fait, qu'ils s'arrêtent ou pas, les frères, on s'organise, donc je répète, message à l'État, le désordre arrive, ils envoient les gaz, au final, y'a que le vent de la révolte que leur méthode attise. Ce message est pour vous, vous qui luttez, vous qui ne faites que vous battre, quand les stars restent au garde à vous, vous qui restez des terres, soutien à vous, les hommes de c'est pour la ZAD et les luttes populaires qu'on soutient jusqu'au bout. Ce message est pour vous qui luttez, vous qui ne faites que vous battre, quand les stars restent au garde à vous. Vous qui restez des terres, soutien à vous, les sœurs et frères, c'est pour la ZAD et les luttes populaires qu'on soutient jusqu'au bout.
Respect à ceux qui luttent sur le terrain, construisent à peu près rien. Morale d'acier face aux bétonneurs que l'État sert bien. Force de l'ordre élevée en randonneur, la résistance désignée en casseur malgré la
Radio Canu, mercredi 13 janvier devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Alors, il y a du monde aujourd'hui, c'est le 13 janvier, parce qu'il devait y avoir un rendu au tribunal de Nantes sur les expulsions possibles de paysans dans la zone de construction du futur aéroport. Voilà, c'est aujourd'hui que devait être décidé si on expulsait ces paysans qui résistent ou pas.
D'accord, voilà. Vous avez des nouvelles sur ce qui se passe actuellement?
Et donc,
sur le tribunal?
Ce matin, avant même, je viens d'apprendre que c'est avant même que ce soit réuni qu'il y ait eu le rendu, on a annoncé dans la presse que c'était repoussé, que le délibéré serait rendu le 25.
Alors, Guillaume Violette, moi je suis membre du bureau de la Confédération Paysanne Rhône-Alpes Auvergne. Donc voilà, aujourd'hui la conf se mobilise sur ce dossier de Notre-Dame-des-Landes comme sur d'autres dossiers de ce qu'on appelle nous les grands projets inutiles. Donc c'est des projets tels que donc Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur plus localement des projets comme le Lyon-Turin, on a eu le stade ici, le stade de Décines, il y a eu l'autoroute A45, contournement de Lyon, tout ça. Donc nous, en fait, notre position là-dessus, c'est qu'on essaye d'interpeller les politiques. C'est urgent d'arrêter de gaspiller du foncier agricole, qu'il faut préserver ces espaces pour pour nourrir la, les pour pouvoir se nourrir quoi, et qu'il faut arrêter de bétonner à outrance.
Ok, et le week-end dernier, tu étais à Nantes, tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé à Nantes?
Ouais, bah du coup, je suis allé participer à l'action qu'il y avait samedi sur le pont de Cheviré. Donc il y avait plusieurs tractovélos qui sont partis de la ZAD et d'autres points de l'Ouest. Il y a des tracteurs qui sont venus même des départements périphériques de la Loire-Atlantique. Et on s'est tous retrouvés avec un cortège aussi de piétons sur un morceau du périphérique. Donc c'était une manif qui était autorisée, qui était portée par plein de groupes différents, plus ou moins citoyennistes, plus ou moins radicaux, voilà quoi. Ce qui est un peu emblématique de ce mouvement-là, quoi, qui arrive à réunir des gens. Moi, je pars un spectre assez large, quoi. Moi, ce que j'en ai retenu et qui est sympa sur l'action de la journée, c'est que du coup, on a pique-niqué sur le périphérique. C'était vachement convivial, c'était vachement sympa. Il y avait beaucoup de monde qui a répondu à cet appel. Et il y avait des familles, des retraités, des jeunes, des gamins, des ados, des gens en fauteuil. Enfin, c'est un truc vachement convivial, vachement... vachement chouette, et pour en avoir parlé depuis quelques mois avec des copains de la ZAD, etc., et des copains de Nantes, je pense que ça leur a fait bien chaud au cœur, parce que il y avait quand même le sentiment que depuis l'opération César, depuis le 22 février 2014 où il y a eu la grosse manif, le mouvement s'était un peu tassé, notamment les collectifs en région, etc., et il y avait quand même cette envie de recréer quelque chose de populaire. Parce que malheureusement, on risque d'en avoir besoin dans les semaines ou les mois qui viennent. Et il faut renforcer cette base-là et le soutien populaire là-bas et puis ici et autant qu'on peut.
Donc du coup, la diversité des collectifs et des enjeux de lutte de chacun, finalement, ça n'a pas été un problème ces derniers temps pour remobiliser les gens, quand vous avez réussi à mettre tout l'ensemble dans un sens commun?
Je pense que c'est vraiment une problématique qui a été centrale à Notre-Dame-des-Landes depuis le départ, en fait. C'est que d'un côté, la grosse asso qui est la CIPA contre l'aéroport, qui est portée par des gens plutôt citoyennistes, plutôt légalistes, etc. Et puis après, il y a déjà la diversité des gens qui habitent sur la ZAD, qui maintenant sont quand même regroupés sur une soixantaine de lieux plutôt par affinité, avec des objectifs hyper différents. Entre ceux qui portent un projet plutôt écolo et ceux qui portent un projet anard, anti-État, ou de lutte contre les grandes structures et les projets inutiles. Voilà. Donc il y a vraiment une diversité. Et c'est marrant, après le mouvement et le blocage qui a suivi samedi, il y a eu une grosse AG sur la ZAD à la Vacherie dimanche, qui était apparemment une des plus grosses qu'il y a eu depuis quelques temps, ce qui est assez bon signe pour nous. Et il y avait... ouais, c'est ça, il y avait encore plein de gens venus avec plein de projets différents. Et c'est-à-dire que t'as, pour te donner un truc un peu concret, tu vois, t'es en plein AG et t'as une petite dame qui a dit ça va paraître un peu naïf, mais moi je pense qu'il faudrait tous qu'on écrive à l'Elysée pour leur demander de se prononcer sur le projet. Et puis à côté de ça, t'as quelqu'un qui a dit faut fournir tous les tracteurs et bloquer le tramway, et après on bloque le tribunal et on brûle tout, quoi. Et du coup, à un moment donné, t'as tout le monde au milieu qui essaye de trouver un peu une ligne un peu consensuelle, et voilà, je pense que le message pour l'instant, avec pas de procès, pas d'expulsion et tout ce qui se passe, là, les opérations escargots, les blocages, nous ici, ailleurs en province, etc., c'est, je pense, en tout cas tel que moi je l'ai compris, c'est que là on est dans une guerre d'image, on n'est pas dans une confrontation directe avec les flics. Donc le but, c'est d'arriver à garder l'opinion publique ou alors à la conquérir, quoi, et à les convaincre que vraiment... déjà de nos objectifs et à comment dire, faire le contrepoids de la propagande médiatique et du gouvernement.
Et qu'est-ce que vous pensez, en tout cas sur la ZAD, ce que tu entends là-bas, de la position, de la stratégie du gouvernement? Est-ce qu'ils vont vouloir expulser rapidement ou ils vont laisser ça, la situation un peu se décanter?
Sincèrement, on est dans le doute. En tout cas, moi j'ai ressenti ce truc-là, mais c'est un peu habituel en fait sur une zone comme ça, parce que voilà, on sait qu'il y a un moment fort qui arrive, où il va se passer des choses qui seront soit un recul, soit une espèce de coup de force. Mais c'est assez dur de savoir. Jusqu'ici, ils voyaient la COP21, donc ils ne pouvaient pas se permettre de faire un désastre sur une zone de défense écolo avant la COP21. Maintenant, ils vont arriver sur la présidentielle et la COP21, c'est peut-être le seul truc qu'ils arrivent à vendre comme étant positif, malgré que ce soit tout l'inverse, mais bref. Du coup, je crois que l'état d'esprit pour le moment, c'est qu'on sait que s'ils ont un créneau pour faire quelque chose sur la ZAD, pour tenter une évacuation, c'est en gros en février, quoi. Je pense c'est après ce procès qui se tient aujourd'hui, le délibéré qui sera donc le 25 apparemment, et avant la fin de l'état d'urgence, quoi, qui leur permet d'avoir les mains un peu plus déliées pour agir. Mais est-ce qu'ils le feront ou est-ce qu'ils le feront pas, franchement, c'est la boule de cristal.
Respect à ceux qui luttent sur le terrain, construisent à peu près rien. Morale d'acier face aux bétonneurs que l'État sert bien. Force de l'ordre élevée en randonneur. La résistance désignée en casseur. Malgré la propagande, c'est clair qu'elle tient. Respect et total soutien, ce qu'on espère. L'abandon du projet, six pieds sous terre, ça au rien. De nos jours, c'est plus crédible si l'État soutient le capital. Et au final, c'est bien souvent veni vidi vaci. On se bat contre ça et on se battra encore. Tant que volonté populaire, ils s'opposeront corps à corps. Tant que l'industrie polluera l'air, voudra s'approprier la terre. Faire que prolétaire désespère dans un décor hardcore. On résistera encore à la sable, au créa, à la ZAD, à Panamou, ailleurs.
Alors voilà le programme de demain pour le soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Lyon et dans la région lyonnaise. Il y aura une tracto-vélo depuis les monts du Lyonnais et du Pila. La tracto-vélo part à 9h de Saint-Martin en haut. Il est possible ensuite de la rejoindre à Mornant à 10h30 ou à 12h au 7 chemin pour ceux qui veulent pédaler un peu moins. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment très peu pédaler, vous pouvez rejoindre la tracto-vélo à 13h30 au centre commercial de Saint-Genis-Laval. Autre possibilité, il y aura un rendez-vous à 11h devant la gare de Givors-Ville. Et une fois tous ces rendez-vous honorés, tout le monde se rejoindra à 14h, puisqu'à 14h, gare d'Oulin, il y aura une convergence des convois, et on retrouvera à 14h, gare d'Oulin, également tous les piétons qui n'ont pas voulu prendre leur vélo, parce que demain peut-être qu'il neigera, ou cette nuit il neigera, et donc il y aura énormément de monde, c'est sûr, pour rejoindre Lyon à pied. On verra ce qu'on fera entre Oulin, gare d'Oulin donc, et Lyon. Je rappelle que gare d'Oulin, il y a un métro, donc c'est possible d'aller de Lyon à la gare d'Oulin pour s'y rejoindre à 14h. Et une fois qu'on sera à Lyon, on se rassemblera tous place Colbert à 17h. Et là donc à 17h, il n'y aura plus aucune excuse. Gare d'Oulin, c'est peut-être un peu loin, mais à 17h, place Colbert, il y aura forcément plein de monde pour déguster du vin chaud, de la soupe, et écouter de la musique et des prises de parole.
Ouais, du vin chaud.
Attends, tu t'es trompé, on n'était pas dans la rubrique agenda, là.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale. Arrêtez un peu les conneries, là, non.
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et voilà, du coup, pour continuer sur le national, on va apprendre ce qui se passe à Le Forêt. Alors Le Forêt, on a menti, c'est pas dans l'Ain, c'est dans le 62. Je suis désolé, je sais pas où c'est le 62. Mais du coup, c'est pas du tout drôle. Par contre, ce qui se passe dans le 62, c'est qu'à la poste de Le Forêt, les facteurs et les factrices y prennent leur service dans un garage qui est loué à un particulier. Donc c'est assez drôle à voir. On peut aller sur le site de Sud PTT. Donc du coup, là, pour le coup, c'est Rhône et 1. C'est ce qui m'a un peu induit en erreur. Je suis désolé. Et il y a des super photos. C'est dans un parc, dans un garage d'un particulier. Et sur le parti gauche du garage, les facteurs y prennent leur service là. Et donc du coup, ils récupèrent leur vélo. Et ils ont un pauvre porte-manteau pour accrocher leurs vêtements. Donc le jour où il pleut, le jour où il fait trop chaud, il n'y a pas d'isolation, ils n'ont pas de vestiaire pour se changer, ils n'ont pas de casier pour mettre leurs affaires. Donc voilà comment ça se passe maintenant à la poste. Et pour continuer sur cette super thématique vélo, je crois qu'on a une magnifique musique.
gravé. Nous visons le bébé, tu touches la billet. Roule, roule, ça va arriver. Louison, louison, louison bébé. Dans les clairs, de parler mon effet. Louison, louison, louison bébé. Le peuple sur la tête, ça va finir d'aller.
Vas-y, louison.
Louison bébé, le ventre bien rentré. Fille, fille, fille comme un boulet. Louison bébé, retourne-moi apparaître. La flamme, flamme du dernier kilomètre. Louison, louison, louison bébé. Comme un éclair, de parler mon effet. Louison, louison, louison bébé. Le peuple sur la tête, ça va finir d'aller.
Vas-y, louison.
Louison, louison, louison bébé. Louison, louison, louison bébé. Louison bébé. Louison bébé.
Oh vas-y louison.
Louison bébé. 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 Louison bébé.
Louison bébé.
Louison bébé.
Louison bébé.
Putain Raymond, regarde là-bas.
Eh ben, je le reconnais, mais c'est Louison Babin. Vas-y, Louison.
Louison Babin.
Louison Babin.
Louison Babin, la piste est bloquée. Roule, roule, sinon les palais. Louison Babin, tu veux jouer. Roule, roule, ça va arriver. Louison, Louison, Louison Babin. Dans les clairs, de parler mon épée. Louison, Louison, Louison Babin. Ne peut plus s'arrêter, ça a été d'aller.
Vas-y, Louison.
Sous le ciel, c'est illuminé. Louison Babin, reste hypnotisé. Mais là, comme un fou, mais n'avance plus tout. Bob est encore derrière. Louison, Louison, Louison bébé. Comme un éclair de parler mon effet. Louison, Louison, Louison bébé. Ne peut s'arrêter, ça va finir d'aller.
Vas-y Louison.
Louison bébé, Louison bébé. Louison bébé, Louison bébé. Louison bébé, Louison bébé. Louison bébé, Louison bébé. Louison bébé.
Et oui, on vient d'écouter Louison Bobet, ça a été souvent répété dans cette chanson, donc chantée par les Ludwig von 88, et voilà. Et on continue sur la thématique du vélo.
Eh ben oui, bien sûr, parce que en août, qu'est-ce qui s'est passé en août? En plein mois d'août, il y a Ségolène Royal, notre ministre de la Transition énergétique, qui nous a proposé une super grande loi sur la rénovation énergétique. Et dans cette loi, elle a bien entendu mis en avant son indemnité kilométrique à vélo. Donc on avait l'impression que c'était génial, c'était obligatoire pour les entreprises de verser 25 centimes par kilomètre que leurs salariés feraient à vélo. Et ensuite, le 2 décembre, elle a montré exactement qu'est-ce que ça allait être cette indemnité kilométrique à vélo, en pleine COP21 pour rappeler. Du coup, en réalité, une indemnité qui devait être obligatoire est devenue facultative. On compte sur la responsabilité écologique des entrepreneurs. Donc c'est vrai que moi j'y crois assez peu, la responsabilité écologique des entrepreneurs. Et elle est aussi, bien sûr, plafonnée à 200 euros par an. Donc alors, j'ai fait un petit calcul comparativement à Lyon. Un salarié ou une salariée qui aurait la moitié de son abonnement de bus payé par son employeur, c'est 375 euros. Et alors qu'en plus, un abonnement de bus, on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours et pas forcément sur ses trajets domicile-travail. Et les entreprises, elles ne le donnent pas gratuitement, hein, même si elles font ça sur la base de leur responsabilité écologique, c'est des exonérations d'impôts qu'elles obtiennent de la part de l'État. Donc, en gros, j'ai calculé que pour que ce soit rentable pour quelqu'un, pour que ce soit envisageable, en fait, de prendre son vélo pour aller au travail, il fallait qu'on habite à 4 km de son travail. Et donc, c'est vrai que, je suis désolé, mais moi, j'habite pas à 4 km de mon travail. Et la plupart des gens n'habitent pas à 4 km de leur travail.
Là, tu travailles pas. Voilà.
Donc en fait, résultat, c'est juste un bon gros coup de com' en pleine COP21. Alors voilà, on nous fait croire que c'est super d'aller au travail à vélo, que ça va être génial pour notre santé. Mais bon, finalement, en fait, c'est génial pour notre santé, mais pas forcément pour notre porte-monnaie. Et ça, si le jour où il pleut, le jour où c'est compliqué, le jour où le vélo est cassé, on va pas pouvoir forcément être super écologique. Donc désolé, même en pleine COP21, c'est pas l'indemnité kilométrique à vélo qui va nous emmener au travail à vélo. Et voilà, on attend avec impatience la semaine prochaine le retour de la rubrique vélo, de la chronique vélo.
Et oui.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements
de gaz de shit, de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale. Alors voilà, pour entamer cette rubrique internationale, moi j'avais envie de vous parler du Yémen. Parce que du coup, c'est vraiment une des premières victimes des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, tout comme la Syrie et en Irak. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en France, on parle beaucoup plus de la Syrie et d'Irak et très peu du Yémen. Et pour revenir un petit peu au contexte, du coup, le Yémen, c'est un pays de 27 000 habitants qui est au sud-ouest de la péninsule arabique et au sud de l'Arabie Saoudite, qui est à côté de l'Oman. Et le Yémen est plongé dans le chaos depuis l'entrée des rebelles chiites, qui s'appellent les Houthis, dans la capitale, Sanaa. Et ça, c'était en septembre 2014. Ensuite, il y a eu une opération militaire qui a été baptisée Tempête décisive, qui a été déclenchée par une coalition qui était menée par l'Arabie Saoudite. Ça, c'était à partir de mars 2015 que ça a été déclenché, ce truc-là. Et du coup, ça fait vraiment que le Yémen est au centre des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au Moyen-Orient. Du coup, il y a une guerre civile qui oppose les rebelles houthistes soutenus par l'Iran au gouvernement du président Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie Saoudite. Et c'est quand même une guerre qui a fait plus de 6000 morts en 9 mois. Voilà, et en plus, c'est vraiment, voilà, c'est les guerres low cost entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, où du coup, il y a un rapport de force qui s'établit sur des terrains où les civils, en fait, ils ont rien à voir avec tout ça, et ils sont pris dans plein d'enjeux géopolitiques hyper forts. Et en plus, du coup, depuis le 2 janvier, les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, elles montent de plus en plus, parce qu'il y a eu l'exécution d'un opposant chiite saoudi. Et cette tension menace du coup vraiment tout le Moyen-Orient, puisque l'Arabie Saoudite a rompu début janvier ses relations diplomatiques avec Téhéran. Et la conséquence, c'est que pour le moment, pour le Yémen, il n'y a plus de poursuites dans les négociations de paix, qui étaient censées reprendre là en janvier, quoi. Ce qui s'est passé en fait exactement, c'est que le 2 janvier, l'Arabie Saoudite a exécuté des condamnés à mort, dont un opposant chiite formé en Iran. Et cette décision a été vécue comme une provocation en Iran, qui se considère grosso modo comme le protecteur du monde chiite. Et après ça, il y a des gens qui ont incendié l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran. Et en réaction, l'Arabie Saoudite a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran, ce qui a été suivi par Bahreïn et le Soudan. La tension entre les deux grandes puissances du Moyen-Orient est le résultat du coup d'une ancienne rivalité entre des États qui luttent chacun pour étendre ou défendre leurs aires d'influence. Bon, il y a aussi bien sûr plein d'enjeux économiques par rapport au pétrole et tout ça. Mais du coup, pour revenir au conflit au Yémen, voilà, du coup le conflit, c'est la guerre civile en cours au Yémen qui oppose les houthistes, qui sont les rebelles du nord du pays, qui sont issus d'une minorité zaïdite, c'est une branche du chiisme, aux forces loyalistes fidèles au président Mansour Hadi. Hadi, en fait, c'est un président qui a été élu après la révolution yéménite en 2011. Donc lui, il a été élu juste après ça en 2012. Et ça devait être un gouvernement transitoire. Du coup, d'ailleurs, c'était des élections, il n'y avait qu'un seul candidat, donc il a été élu, mais il a très peu de légitimité, vu que c'était le seul à se présenter, c'était un peu en accord entre les différents partis. Enfin, grosso modo, il ne faut pas rentrer trop dans les détails non plus, on se rappelle, on n'a quand même que 3 minutes. Bon, les Houthis, du coup, qui sont au nord du pays, au début, ils luttaient contre la corruption et contre. Enfin, il y avait plein d'enjeux hyper différents, des enjeux régionaux, des enjeux politiques, des enjeux géographiques. Mais en fait, quand les houthistes ils ont pris la capitale, l'affrontement a pris une dimension religieuse. Comme ça arrive dans plein de conflits finalement, c'est après la dimension religieuse qui prime et on simplifie tout par rapport à ça, alors qu'au début c'était pas ça du tout.
Et du coup, les rebelles houthistes ont conquis en septembre 2014 Sanaa, la capitale, puis en mars 2015, la deuxième ville du pays, forçant le président à s'exiler en Arabie Saoudite. Alors déjà, le président, il était plutôt allé dans le sud, c'était plutôt au début son lieu de repli. Et inquiète de voir se développer une rébellion chiite à leur frontière sud, les autorités saoudiennes se sont alors engagées militairement le 26 mars aux côtés des loyalistes du président Hadi en lançant des raids aériens et en fournissant matériel et troupes au sol à la tête d'une coalition de 9 pays arabes. Du coup, en 9 mois, la guerre au Yémen a déjà provoqué plus de 6000 morts, 28 000 blessés et 2 500 000 déplacés, selon l'Organisation nationale des Nations Unies, qui, du coup, estime à 80% des Yéménites. L'Organisation des Nations Unies estime à 80% des Yéménites qui ont besoin d'aide humanitaire. Alors, du coup, à côté de ça, il y a le conflit qui semble complètement bloqué comme ça. Il y avait un cessez-le-feu qui avait été décrété le 15 décembre et des pourparlers de paix qui avaient été engagés. Mais du coup, les discussions se sont terminées après 5 jours sans résultat. Et quant à la trêve, violée quasiment quotidiennement depuis la mi-décembre, elle a pris fin le 2 janvier. Et les représentants des forces loyalistes et des rebelles houthistes avaient prévu de se retrouver le 14 janvier. Mais l'escalade diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran rend quasi impossible le succès de ces négociations-là. Voilà. Et je ne vous parle pas en plus de la guerre civile, de la situation qui fait qu'il y a une prolifération des groupes terroristes, notamment dans le sud, notamment de l'organisation Al-Qaïda, l'ACPA. Voilà. Donc ça, je ne vous en parle pas du tout. Ni des... Enfin, c'est juste, voilà, je voulais juste dire que là, il y a des civils qui meurent tout le temps à cause de cette guerre et que la France, finalement, elle y participe aussi indirectement vu qu'elle soutient l'Arabie Saoudite. Et ça, en fait, c'est aussi notre rôle de dire, ben non, on n'est pas d'accord avec la France qui fait ça, quoi. Voilà.
Super, et ben, alors...
Mais non, alors, une info sur le Yémen.
Mais est-ce qu'on... Ouais, bon, on va essayer quand même de parler très... Ouais, vas-y.
Oui. Non, mais en fait, c'est juste que pour les, les gens qui sont sur Lyon, il y a une conférence qui est... Mais pour tous les gens, il y a une conférence qui est en ligne sur... Pour avoir plus de détails, en fait, sur les mouvements de femmes au Yémen, sur le site de l'Université Populaire de Lyon. Voilà. Et du coup, en fait, il y a la conférence en ligne où on sait tout, où ça parle pas spécialement que de l'actualité, mais vraiment de l'historique qui est très intéressant.
Eh ben, génial. Ben, moi, je vous propose juste de faire un teaser de la semaine prochaine sur le gaz de schiste, parce que là, quand même, on se rapproche dangereusement de la fin. Alors, je vais juste vous dire que la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre la thématique du gaz de schiste. Et je vous parlerai de ce qui se passe dans le Midwest des États-Unis à Youngstown, une petite ville de l'Ohio.
D'accord. Et ben, moi aussi, j'avais un petit truc à dire sur le gaz de schiste, mais évidemment. C'est un peu short, donc pareil, c'est pour reparler d'un truc qu'on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire que Total tentait de renouveler son permis d'exploitation, donc dans la région entre Valence et Montélimar, voilà, ça couvre plusieurs départements. Donc voilà, donc je vous en parlerai la semaine prochaine, pareil.
Et on commence du coup, enfin on finit plutôt avec l'agenda du week-end et de la semaine.
Et oui, alors l'agenda. Ce soir et demain soir, au bar des Capucins, il y a la Free Noise Birthday Party qui est à prix libre avec plein de concerts les deux soirs. Ensuite, il y a ce soir, demain et samedi prochain à 20h, une pièce au théâtre de l'Iris à Villeurbanne qui s'appelle « Et l'humain alors ?» qui est d'après Fernand Deligny, qui est un éducateur spécialisé, qui a un regard critique sur les institutions qui enferment ceux que la société ne veut pas voir et qui prônent donc plutôt la vie en communauté. toujours au théâtre de l'Iris, la semaine prochaine, tous les soirs à 20h, une autre pièce de théâtre qui s'appelle Face de cuillère et qui traite de l'autisme. Voilà, demain, donc, par la tracto vélo et les rassemblements dont on vous a parlé tout à l'heure, il y a aussi...
Extrêmement important quand même, on rappelle qu'il y a un rendez-vous à 10h.